France Culture.
La maladie des homosexuels, celle que l'on a découvert il y a un an et demi aux États-Unis et qui fait de véritables ravages, des ravages mortels, eh bien cette maladie atteint maintenant l'Europe. Les responsables de la santé en France et en Europe se sont réunis hier à Paris. Alors, Annie Delmont, quelles mesures ont-ils décidé? En d'autres termes, que faut-il faire?
Cette maladie, dite des homosexuels, est appelée plus scientifiquement le syndrome immunodéficitaire acquis, en abrégé le SIBA, c'est-à-dire un affaiblissement de nos défenses immunitaires. Elle est due vraisemblablement à un virus. Sur 3000 cas recensés dans le monde, 2000 sont morts, la plupart aux États-Unis. Mais l'Europe n'est pas épargnée, 200 cas en Allemagne, 70 au Danemark, 49 en France. Maladie mortelle dans tous les cas, puisqu'aucun traitement n'existe jusqu'à maintenant.
Héroïne, le temps des seringues. Une série documentaire de Hajar Benboubaker, réalisée par Gilles Blanchard. Troisième épisode, SIDA, overdose, la catastrophe invisible. Les années 80 sont pour les quartiers populaires de Paris et sa banlieue celles de la grande catastrophe. L'héroïne circule massivement et emporte une génération entière fauchée par la drogue et le sida, dans l'indifférence des pouvoirs publics. Les chercheurs s'accordent à dire que les personnes d'origine maghrébine, issues des quartiers populaires, constituent l'un des groupes les plus touchés par l'épidémie d'héroïne. Pourtant, aucune donnée officielle ne chiffre les décès liés à l'héroïne parmi les maghrébins, pas plus qu'il n'existe de statistiques sur les victimes maghrébines du VIH. Cette invisibilisation masque autant le drame d'une communauté que l'indifférence des pouvoirs publics de l'époque à l'égard des banlieues. Si l'histoire racontée est celle de la région parisienne, elle trouve des ressemblances et des échos dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui les cités de France.
Il faut se rappeler un peu l'ambiance effectivement de l'époque. Cette phobie là, sur le sida, elle était partout dans la société. Les gens pensaient que la contamination, ça passait par la sueur, par la transpiration. C'est un discours de Le Pen, d'ailleurs, qui dit ça à un moment, qui voulait créer des sidatoriums.
Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux.
On voyait les médecins qui n'avaient pas de réponse thérapeutique. Et en général, quand les gens... Le moment où ils déclaraient leur sida, il leur restait un mois ou quelques mois à vivre. L'idée, c'était qu'on était condamné à mort.
Fabrice Olivet, historien, gagné.
Pas de traitement, une maladie nouvelle. L'Occident avait l'habitude de vaincre toutes les maladies. Et là, on se retrouve d'un seul coup avec un virus contre lequel la médecine est absolument impuissante. À l'époque où ensuite on parle du cancer gay, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on pense que le sida... est une maladie réservée aux homosexuels. Et ce qui est tragique, c'est qu'on a bien vu l'engrenage répressif dans lequel on était englué, puisque on a une loi extrêmement répressive qui date de 1970, donc qui punit très sévèrement la consommation de drogue, de toutes les drogues, y compris d'un an de prison pour un simple joint. Et en 72, deux ans après, dans la même logique, les autorités françaises ont pris ce décret qui interdit aux toxicos d'acheter des seringues, donc avec l'idée que si on considère que la drogue c'est l'ennemi numéro un, comme le disait Nixon, tous les moyens doivent être mis en place pour pouvoir l'interdire. Sauf que cette interdiction a servi de creuset à l'épidémie de SIDA 10 ans plus tard. Et je pense que c'est à partir de 1984 qu'on réalise que cette contamination qui passe par le sang est majeure dans le cas des toxicos, puisque il y a ce fameux décret 72 qui les empêche d'acquérir des seringues stériles. Donc la contamination, elle est massive, et les toxicos sont censés être en majorité hétérosexuels. Donc c'est la porte ouverte sur cette fameuse peur de voir l'ensemble de la société contaminée.
Le sida, il arrive en 83-84.
Donc, comme vous le savez, la vente de seringues est interdite depuis 72.
Aude Lalande, ethnologue.
Et en 87, on va libéraliser la vente de seringues. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 ans, là, où ça s'est diffusé à toute vitesse. Pour que les pouvoirs publics prennent cette décision-là, dans le contexte idéologique, avec la conception qu'il y avait à l'époque des drogues, c'est que ça a dû être massif à ce moment-là. De toute manière, au départ, quand on a commencé à caractériser les groupes qui contractaient le VIH, c'était les 4 H. Il y avait les homosexuels, les hémophiles, les haïtiens, je crois, et les héroïnomanes. Donc, en fait, le groupe des injecteurs a été identifié très rapidement comme étant touché par le phénomène.
Le problème du sida chez les homosexuels est en train de se ralentir, étant donné, grâce à une réaction des groupes homosexuels, malheureusement, en ce moment, l'infection se développe d'une manière extraordinaire chez les toxicomanes.
Ces porteurs du sida, hommes, femmes, enfants, on les trouve désormais en majorité dans les ghettos des grandes villes. La maladie frappe en priorité les couches les plus défavorisées de la nation, les plus touchées aussi par les problèmes de drogue.
Chaque jour, en France, naissent entre 5 et 10 enfants contaminés par le virus, des enfants pour lesquels le pronostic reste malheureusement très sombre.
Le dépistage systématique dont on parle beaucoup, c'est une solution, Jean-Damien ?
Ce n'est sûrement pas la solution et tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il est inutile. Pourquoi ? Parce que là encore, toutes les études faites à grande échelle ont montré que les femmes à risque, on les connaît bien. Ce sont d'abord les toxicomanes ou celles dont le conjoint est un toxicomane. Les drogués payent le plus lourd tribut actuellement.
Oh là là, ça le sida, il est arrivé un peu comme partout. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis après, la drogue, en plus le sida, ça a été la fin, quoi.
Rabat, habitant de Nanterre.
La drogue pour les parents, ils avaient peut-être un espoir qu'un jour le gamin s'en sorte. Mais une fois qu'il était contaminé, qu'il le savait, et c'était fichu, quoi. C'était fini. Il était mort. Et comme personne ne savait un peu ce que c'était, le sida, hein, c'est vrai, c'est un virus mortel. Donc les gens, tout de suite, ils se sont braqués, quoi. Par la salle, chacun y va avec son délire. Hein. Même des familles, hein, comme leur gosse dort, par crainte qu'ils contaminent le reste de la famille. Donc dans le doute.
J'ai perdu tous les copains que j'avais parce que j'avouais à certaines personnes que j'avais le sida. Bon, c'était l'exclusion. Les parents, ils veulent moins en moins parce qu'ils souffrent.
Mes parents, mes amis ont su que j'avais le sida très rapidement. Et même ma propre mère n'a pas osé me toucher ni m'embrasser pendant 3 semaines. 3 semaines et 1 mois. Personne, ni mon ami. Mon ami me touchait du bout du doigt comme ça sur le front.
Quand j'ai appris que j'étais séropositif, je l'ai communiqué à plusieurs personnes de mon entourage. Je suis resté 4 mois en hôpital, personne n'est venu me voir. J'ai eu une personne qui est venue en 4 mois, ce qui est vraiment ridicule par rapport au nombre de gens que je connaissais.
C'est des moments difficiles parce que on avait toujours peur de croiser quelqu'un qui était séropositif et dont il ne savait même pas. Et c'était un peu compliqué parce qu'à l'époque, les gens ne savaient pas comment tu le chopais ou pas. Donc presque des gens ne voulaient même plus leur dire bonjour.
Mohamed Meshmash, acteur associatif, Montfermeil.
C'est-à-dire qu'à la fin, t'évitais même de serrer la main aux gens. On était dans une psychose de dingue, quoi, je veux dire. Terminé, les mecs qui buvaient dans la bouteille après l'autre, et tout ça, c'est y compris celui qui n'était pas shooté, commençait à devenir psychologiquement touché, quoi. On a beaucoup stigmatisé la question sur le fait d'être les homos qui puissent transmettre. Ensuite, ça a été une stigmatisation plutôt sur les toxicomanes, en disant c'est eux qui importent aussi cette maladie, qui sont en train de contaminer des gens. Mais on était naïfs, on n'était pas, assez informés sur ces questions-là. Quoi. Il a vraiment fallu, après, que la question de santé prenne le pas sur ces questions-là. Parce que c'était, à la base, une question de santé, quoi.
Là où c'était vraiment dur pour les familles, c'est quand le sida est apparu et que tous ces jeunes étaient infectés. C'est-à-dire, d'une part, pour elles, il fallait s'occuper de leurs enfants du mieux qu'elles pouvaient. Et en même temps, elles ne voulaient pas que ça soit divulgué à l'extérieur. C'est-à-dire, mon fils est atteint du sida. Vous imaginez, à cette époque-là, en plus, c'était quelque chose de tabou.
Azedine Zorbi, ancien éducateur, Orly.
C'était pas possible. Donc, ils se relayaient jour et nuit. C'était l'enfer pour certaines familles. Même bien avant le sida, quand les jeunes étaient en manque, il fallait les canaliser. Et ça engendrait quelquefois des crises familiales très aiguës. C'est-à-dire où le père devenait complètement fou, il battait tout le monde. La mère, les mamans qui essaient de s'interposer, de protéger, de temporiser. C'était pas facile. Les familles se sont totalement retrouvées seules. Jusqu'au jour de l'enterrement où tout le monde était là. Et on allait tous au cimetière, les dealers, les consommateurs, certains élus, certains travailleurs sociaux. Une fois que les jeunes ou le jeune ou la personne était enterrée, chacun reprenait sa route. On y allait pratiquement pendant une période, toutes les semaines, au cimetière. On allait enterrer quelqu'un. On revenait, à peine on revenait, qu'il fallait revenir la semaine d'après. Et je vous assure, je me souviens très bien qu'en plus, la MJC, ils avaient un J9 de 18 places. Donc, on emmenait les gens par car, par voiture, et on se retrouvait. Au début, il y avait le cimetière parisien de Thiers, qui est le plus proche. Il y a un carré musulman là-bas où on allait enterrer ces jeunes. Et puis quand il y a eu le phénomène sida où les morts arrivaient progressivement, il y a eu le carré musulman à Orly, où il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été enterrés là-bas, c'est à une centaine de mètres d'ici.
Moi, j'ai été parmi les premiers, en fait, puisque j'avais l'habitude de faire des dons du sang quand j'étais incarcéré. Parce que il faut savoir qu'un des problèmes du scandale du sang contaminé, qui est encore une histoire de l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de dons du sang qui étaient demandés aux prisonniers. Parce que bon, un prisonnier qui est incarcéré, il est dans sa cellule et il demande que ça de sortir pendant quelques temps. Et donc, il donne son sang, ce que j'avais l'habitude de faire.
Fabrice Olivet, historien, Gagny.
Et je suis sorti de prison en 84, oui, c'est ça. Et en 85, j'ai continué cette habitude de donner mon sang lorsqu'il y avait des collectes de la Croix-Rouge. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai reçu une lettre qui m'avertissait qu'il y avait un problème. Et je me souviens encore avoir été à l'hôpital Cochin où j'ai vu un spécialiste dit, voilà, il y a un problème, vous êtes contaminé par le virus du sida. Et moi, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, oh, bah, voilà, vous êtes toxico, bah oui, bah écoutez, voilà, faut arrêter la drogue, mais je suis sorti de là avec l'idée que de toute façon, il me restait quelques années à vivre et que voilà, l'affaire était terminée.
Dans les quartiers de banlieue parisienne, quand on interroge des personnes qui ont vécu cette période, il y a l'idée d'un laisser-faire des pouvoirs publics et d'avoir été totalement abandonné, notamment en matière de soins, c'est-à-dire de ne pas savoir où s'orienter quand un enfant, un fils en l'occurrence plus souvent, était toxicomane.
Oui.
Et aujourd'hui, on considère qu'une partie de la génération de jeunes franco-maghrébins qui vivaient en France a été décimée par l'épidémie du sida et de l'héroïne.
Absolument, oui. C'est indiscutable. Les réponses de soins, les réponses de prévention du sida, elles ont été complètement absentes pendant toutes les années 80.
Anne Coppel, sociologue.
En Grande-Bretagne, par exemple, dès qu'il y a eu l'information sur le fait que le partage des seringues pouvait engendrer une contamination au sida, ça c'est 1985, eh bien la Grande-Bretagne a tout de suite mis en place sa politique de santé pour répondre à cette épidémie mortelle. Mais en France, il n'y a pas eu du tout une réaction comme ça. Les réponses étaient purement répressives. Alors ça, la prison, ils ont été nombreux à en faire l'expérience. Hein.
En fait, quand vous étiez consommateur, il y avait la loi de 70. De décembre 1970. Il y avait deux volets dans cette loi. Il y avait un volet thérapeutique, c'est-à-dire vous êtes un malade et le procureur ou le juge peut, par une injonction, vous demander d'aller vous faire soigner. Et il y avait un côté répressif. Mais dans cette loi, ce qui a prévalu, c'était surtout le côté répressif. Et comme en plus, les jeunes venaient des quartiers, en somme, je suppose qu'elle était appliquée différemment dans d'autres quartiers, mais dans les quartiers populaires, on les emmenait en prison. Ça, c'est Bouzide. Il est décédé aussi, je verrai bien, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont ajourné, libération conditionnelle, y a-t-il un point ? Au niveau de mon sursis, qu'on était 4 mois à l'éducatrice, bon, Astine, je te tiens au courant des événements. Lui, c'est le même, c'est Rida Benelani. Alors, je suis en mesure de vous indiquer que mes recours ont été enregistrés par le tribunal administratif, etc. Il a eu la double peine, lui. Mais n'a pas encore nous indiqué la date. Tout ça, c'est des problèmes de consommation de, de produits illicites, entre guillemets, qui étaient incarcérés et qui devaient être expulsés. Donc là, il fallait un petit peu courir pour éviter l'expulsion, etc. Et c'était dans les années 87, 88. On était en plein dans ce qu'on appelle la loi de la double peine. Donc voilà, Benelani Rida, je fais partie de cette loi. Avant de vous dire, je suis de je voulais... Bon, je passe. Ça, toujours, je vous adresse. Ça, c'est qui ? Saïda.
C'est les souvenirs que vous avez de ces jeunes, principalement ces lettres ?
Pardon ?
C'est les souvenirs que vous avez gardés de ces jeunes ou vous avez encore des photos ou d'autres choses ?
J'ai des photos, mais ils sont... il faut aller les chercher. Si, si, je visualise très bien qui est qui. Ils étaient en pleine force de l'âge. Elle est terrible, celle-là.
Je suppose que tu as dû apprendre le décès de mon frère. C'est pour cela que je t'écris, car j'ai besoin de parler à quelqu'un qui l'a connu et qui, de plus, est musulman. Aujourd'hui, mercredi 6, j'ai été l'embrasser une dernière fois avec la permission du juge. Il y avait ma mère et mes sœurs. Enfin, tu imagines l'épreuve que ça a pu être pour moi. En rentrant à Fresnes, l'éducatrice m'a demandé si je voulais en parler.
Son frère est mort d'une overdose. Et lui, il consommait déjà, mais sauf qu'il était incarcéré. Et donc, il m'écrit cette lettre en plein désarroi. Il voulait assister à l'enterrement de son frère. Et donc, je crois qu'il n'a pas pu. En rentrant à Fresnes, l'éducatrice m'a demandé si je voulais en parler. Mais comment lui parler de mon frère, mon petit frère, qu'elle ne connaît même pas ? Alors j'ai refusé. Alors je te demande à toi, en tant qu'ami, de venir me voir, car j'ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de te parler. De plus, je n'arrête pas de me poser des questions. Y a-t-il un paradis ? Est-ce que mon frère en a le droit ? Je sais que le est un péché, mais est-ce vraiment lui qui ne connaissait en rien ? Pourquoi est-ce dit mon petit frère ? Asdine, si tu pouvais m'apporter le Coran en français, cela me serait d'un grand réconfort. En attendant de te voir et de te lire, je te fais mes sincères amitiés. Il est culpabilisé parce que lui, c'est l'aîné. Et par moments, ils entraînaient les petits frères dans ces histoires-là. Mais bon.
Est-ce qu'on peut reparler plus précisément de ce qu'on appelle la double peine ? Est-ce que vous pouvez en parler ?
Oui, oui, la double peine, c'est-à-dire que quand vous étiez consommateur, donc vous étiez délinquant, si vous étiez délinquant et que vous étiez pris, vous faisiez une peine de prison, mais en plus de la peine de prison, on vous expulsait dans votre pays pour peu que vous ayez uniquement une carte de résidence. Et à cette époque-là, c'est terrible, hein, parce que aussi, les jeunes, beaucoup de jeunes tenaient à garder la nationalité de leurs parents. Alors qu'ils étaient nés ici, ils avaient tous les droits et malgré tout, pas mal d'entre eux ne voulaient pas de la nationalité française. Et donc, une fois incarcérés à leur sortie, ils étaient expulsés dans le pays d'origine. Quand on était au courant des histoires des jeunes, on pouvait en sauver quelques-uns.
Mon oncle faisait des allers-retours, hein. Il faisait des 6 mois, 8 mois, 12 mois, 18 mois. Et c'est malheureux à dire, mais c'était le seul moment où ma grand-mère était en paix et tranquille, quand son fils était en prison.
Mohamed Mechpache, Montfermeil.
Et elle était même soulagée des fois de le voir en prison, parce qu'elle se disait en attendant, j'ai pas à m'inquiéter s'il va rentrer ou il va pas rentrer le soir, si demain je vais pas le retrouver mort dans un vide ordure, dans une poubelle ou dans la rue. Et puis ça leur permettait de reprendre la santé, quoi. Moi je vous parle de mon oncle, il mesurait 1m90, il faisait 120 kilos, c'était une armoire à glace, et la CAM l'a complètement détruit, quoi. Et quand il retournait en prison et qu'il ressortait, on revoyait le visage bien plein, reprendre du poids, et on était contents. Donc ça nous permettait de dire, tiens, on va l'aider à ne pas retomber.
C'est triste, hein, mais je vais vous dire une chose, mais les parents,
Rabat,
ils étaient rassurés, ils étaient bien quand le gamin était en prison.
Habitant de Nanterre.
C'est fou, hein. Il n'y a que là que... ça s'apaisait dans les familles. Ça s'apaisait. La maman allait faire dodo tranquille, elle faisait ses nuits. Elle savait où était son fils. Il est en prison, il n'allait pas mourir. C'est sûr que c'est dur, mais au moins il est vivant. Il est encadré, il est vivant. Pour beaucoup de familles, hein, ils ne le diront pas. C'est le seul moment où, quand je prenais 6 mois ou 1 an, où il ressortait en bien. Hein. Mais ça ne durait pas. Ça ne durait pas.
À Fleury, les jeunes qui étaient incarcérés étaient livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait un sevrage forcé. Et c'est là où aussi un deuxième drame se passait. Quand vous passez 1 an sans consommer de produits, et dès que vous sortez, et qu'on ne vous a pas informé du danger, c'est-à-dire très vite, ils allaient chercher leurs produits et ils les injectaient. C'était l'overdose tout de suite. Personne ne les a mis en garde. Donc, il y a eu énormément de jeunes qui sont morts de cette façon-là. C'est-à-dire, sevrage, tu peux forcer pendant l'incarcération. Et dès qu'ils sortaient, puisqu'il n'y avait ni psychothérapie, ni accompagnement, ni. Donc, dès qu'ils sortaient, ils se jetaient sur le produit. C'est comme ça. Plusieurs de ces jeunes sont décédés par overdose.
Cette réalité-là de la drogue dans les cités, la drogue, c'est une histoire de violence dans les cités, avec l'immigration en toile de fond. Ça commence dans ces années-là. Ça commence à partir du moment où, encore une fois, l'héroïne investit ces espaces qui sont des espaces vulnérables, où l'héroïne devient un marché et où ce marché, il est situé justement dans ces cités de banlieue.
Fabrice Olivet, Gagny.
Et à ce moment-là, la figure du toxico, la figure de la personne dangereuse, ça devient une figure racisée. Il reste quand même dans la culture policière, je pense, cette idée. C'est pas loin, hein, 20 ans, hein, c'est pas beaucoup, hein, entre 60 et 80. Donc il y a des vieux policiers qui étaient en place dans les années 80, qui étaient certainement les anciens qui avaient aussi balancé des arabes dans la scène. Et donc, pendant toutes les années 60, il y a cette idée, et ces années 70, que les Arabes, c'est suspect. Enfin, parce que il y a toujours des réminiscences de violence qui datent de la guerre d'Algérie. Et ça revient très très fort avec la fin des années 70, donc 15 ans après, quand la deuxième génération, ceux qui sont nés en France, mais qui sont quand même des Arabes, deviennent des adultes. Et là, on a ce prétexte de ce sont des toxicos violents qui volent, qui arnaquent, et donc il faut contrôler. Exactement comme contrôler les Algériens, parce qu'ils étaient censés être des terroristes. Le contrôle au faciès, il naît de cette époque-là. Faut le dire. L'idée que un arabe doit être contrôlé dans la rue, c'est parce qu'il est soupçonné soit de vendre de la drogue, soit de détenir de la drogue. Et un arabe ou un noir d'ailleurs, parce que moi en tant que jeune consommateur, j'ai fait cette expérience 100 fois. Mon identité de personne noire et mon identité de consommateur étaient complètement liées et je la remettais même pas en cause. Enfin si, j'avais bien conscience que c'était injuste de me faire contrôler quand je me baladais dans la rue avec 4 copains blancs et que c'était moi qu'on venait chercher. Tout ça date de cette époque-là, ça date de cette construction du phénomène de la racaille de banlieue dans les années 80 que moi j'ai connu, notamment quand j'ai été en prison. Je me souviens très précisément de mes expériences jeunes détenus où d'un seul coup je me suis retrouvé dans la cour de Fleury-Mérogis où il y avait autour de moi que des jeunes noirs et arabes qui étaient en grande majorité là pour des histoires liées au trafic ou liées à ce qu'on appelait les délits connexes, les cambriolages, etc. Tout ce qui que les gens étaient amenés à faire pour pouvoir se procurer de l'héroïne. C'est pour ça que j'ai eu très vite conscience de cette collusion entre, disons, les politiques racistes et la guerre à la drogue telle qu'elle est pratiquée en France.
À l'époque, quand le sida arrivait, quand tu tombais, quand tu arrives en prison, tu passes à une visite médicale. Ils te demandaient est-ce que tu veux faire le test ou pas. Tu n'étais pas obligé de dire oui. Et c'était sec, hein. Ils faisaient le test et après ils disaient tu l'as, direct. Hein.
C'était à la chaîne. Tu veux le savoir si tu es malade ou pas? À la chaîne. Oui, t'as été malade. Tu veux le savoir ou pas? Oui, t'es malade. Tu veux le savoir? Non, je ne veux pas le savoir. Allez, au suivant, comme ça. Comme à la chaîne. Et c'est mortel.
Ahmed Emissoum, ancien consommateur. Nanterre.
Et une fois qu'ils avaient le résultat, il n'y avait pas de précaution. C'est-à-dire, toi, tu étais comme ça, hop, et à l'époque, c'était la mort, le sida. Ça venait d'arriver et tout. Il t'annonçait ça comme ça. C'est-à-dire, quand t'arrivais, il y en a qui disaient non, mais la majorité disait oui, ils voulaient savoir. C'est-à-dire, quand ils t'annonçaient, ouais, t'as le sida comme ça. Ah,
mais dans la cellule, t'es pas bien. Quand t'as une grosse peine, t'es du gamberge avant. Voilà, 10 mois après ou 10 ans, t'es mal dans la tête.
Enfin, moi, j'ai vu des amis à l'hôpital en fin de vie, tu les voyais comment ils étaient. C'est atroce. Des plaques, tout maigre et tout. À part la morphine, il n'y avait rien pour les soulager. Ça fait mal au cœur. Vaut mieux faire une OD que mourir du sida à petit feu.
Entre 82 et 84, j'ai pris de la distance avec les drogues. Ça faisait plus partie de ma vie. Les rares fois où je consommais des drogues, entre 82 et 84, on va dire, j'ai toujours fait attention à mes seringues.
Malika, ancienne consommatrice, Paris.
J'étais très sensible à tout ce qui était hygiène, science, médecine, etc. Ce qui ne m'a pas empêchée d'attraper l'hépatite. Mais par rapport au sida, donc, c'était une raison de plus de faire attention. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai appris que des amis étaient touchés, quoi. Dans mon entourage, il y avait beaucoup de gens qui avaient attrapé le sida. En plus, on se rend compte qu'il y avait des gens qui n'étaient absolument pas informés. Ils s'injectaient et ils ne prenaient aucune précaution parce qu'ils n'en avaient jamais prise. Alors bon, il y a le sida, mais ils ne savent pas faire attention. Donc moi, tellement parano, moi je quittais pas des yeux ma seringue et puis je faisais des marques. J'avais brûlé ma seringue pour avoir un repère comme quoi c'était vraiment la mienne.
Ça c'est sûr que ça me fait peur. Mais c'est pas à cause du sida que j'arrête la cam. Hein. Moi je vois simplement que bon, je cours, voilà, c'est simple ma journée. Je cours pour trouver de la cam, après je cours pour trouver un dealer et après je cours... où je galère pour trouver une veine pour pouvoir me shooter. Voilà mes 24 heures. C'est nul.
Qu'est-ce que ça a changé l'arrivée du sida pour toi?
Rien. Pour un toxicomane, ça change rien. Moi, j'ai fait usage de stupéfiants pendant X années et ça n'a rien changé. Je peux avoir la peur seulement de pas trouver.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu arrêtes?
Que la vie soit un peu moins pourrie. C'est tout.
En 89, donc, je débarque dans le milieu professionnel. Et je travaille à Nanterre. Je travaille dans une association de sortants de prison, aide aux sortants de prison, dans un petit pavillon à Nanterre, à 100 mètres, 150 mètres de la cité des Pâquerettes. C'était un foyer de sortants de prison. Tout le monde le connaissait et tout le monde disait la Maison Verte. Il y avait des usagers qui avaient attrapé le sida. Leurs parents, parfois, les mettaient dehors, avaient peur de la contamination. Le sida est venu à cause de la drogue. Donc, les parents étaient doublement accablés, désespérés. Et là, arrive cette maladie mortelle. Alors, parfois, les familles pensaient que si leur enfant, leur fils, avait des responsabilités, se mariait, avait des enfants, et ben qu'il arrêterait de se droguer. Et puis, l'espoir que le sida, il y échapperait. Et il y a des exemples comme ça où les jeunes usagers, ont été envoyés au bled. Ils se sont mariés, ont contaminé leurs femmes, etc. quoi.
Et est-ce que vous avez pu constater à l'époque le degré d'information sur le virus du sida? Est-ce que les gens étaient informés
Non, ça a été très très dur à passer l'information. Ils n'étaient pas informés à l'époque.
Beaucoup de jeunes sont allés se marier alors qu'ils étaient infectés. C'est comme ça que pas mal d'épouses ont été aussi infectées.
Comment vous l'expliquez, ce choix de se marier et de construire une vie de...
Mais c'est un choix qui est dicté par les familles, par les parents.
Azzedine Zerbi, Orly.
C'est-à-dire, en se mariant, il va rester tranquille. Il va enfin retrouver une sorte de sérénité, de paix.
En fait, je posais la question aussi par rapport aux connaissances à l'époque de la transmission du virus du sida. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des choses qui sont liées au manque de connaissances sur les modalités de transmission à l'époque?
Parce qu'il n'y avait aucune info. Le désir des parents, c'était que les enfants se marient pour être tranquilles. Peut-être qu'ils ne savaient pas que les enfants étaient infectés. Peut-être. Et pour eux, c'était uniquement, on envoie le petit au pays, au bled, et puis il se marie. Et on va l'aider là-bas, il est à la maison, il y a tout ce qu'il faut. Et là-bas, peut-être qu'il va rompre avec le produit, avec ces choses-là.
Oui, mais ils revenaient, les gamins, ils revenaient. Ils revenaient toujours, les gamins. Il y en a quelques-uns qui sont restés là-bas, mais c'est pareil, ils ont mal tourné. Que j'ai croisé, moi, là-bas, sur Marnia.
Rabat, Nanterre.
Bon, ils sont toujours vivants. Mais pour d'autres qui étaient là, qui sont partis... pendant des années, qui sont revenus. Mohamed qui est décédé aussi, 5-6 ans, il a fait là-bas. Son père, il l'a viré parce qu'il en a eu marre. Comme il avait une maison, il l'a installé là-bas. Là-bas, il s'est marié, il a eu deux garçons. Et un beau jour, il est revenu. Il est revenu, ben quoi, il a fait un mois, puis il est retombé dedans. 5-6 ans, il a fait là-bas. Un mois, il est retombé dedans. Et il est décédé. Entre-temps, ben, il est décédé.
Dans votre cité, il y a eu beaucoup de décès?
Il y a eu beaucoup de décès. Beaucoup.
C'est l'interdiction d'acheter des seringues qui a créé l'épidémie de sida. C'est un fait connu en 1984, au moment où, encore une fois, c'est la gauche qui est au pouvoir. Et il y a déjà des gens au ministère de la Santé pour dire, bon, bah si... C'est l'interdiction des seringues qui crée le problème. On n'a qu'à abolir ce décret. Et les exemples étrangers sont limpides. Par exemple, en Hollande, où les toxicos ont toujours eu accès à des seringues stériles, le nombre de séropositifs est 100 fois moindre. Donc, cette mesure de bon sens, elle est proposée, et elle est proposée à des instances de spécialistes, qui sont encore tenus par l'idéologie Olivenstein, c'est-à-dire l'idéologie du sevrage et de l'abstinence, et cette idée que si on remet des seringues stériles à disposition des toxicos, ça va pas avoir d'effet sur la contamination, parce qu'ils vont continuer à se prêter, à s'échanger des seringues contaminées, parce que c'est dans leur mode de fonctionnement. Et que donc, ça risque de continuer plutôt à propager l'héroïne. Et donc, pendant 2 ans, il se passe rien, et à cause de cette opposition des spécialistes. Il faut attendre le retour au pouvoir de la droite, en 1986, avec Jacques Chirac qui devient Premier ministre, la première cohabitation. Et c'est d'autant plus paradoxal que c'est un gouvernement qui parle beaucoup de répression et qui commence à parler d'immigration très fort, et qui associe dans sa rhétorique l'immigration et la guerre à la drogue, qui commence cette histoire qui aujourd'hui résonne énormément à nos oreilles. Hein, l'idée que le problème de la drogue, c'est l'immigration, c'est les immigrés, en gros c'est les Arabes.
Les premiers morts du sida, ça a été quelque chose de terrible. Au milieu des années 80, ici en banlieue, le sida, on se disait, oui, c'est un truc parisien chez les homosexuels, et puis blanc.
Nelly Boulanger, actrice associative, Le Blanc-Ménil.
Dans les cités, ça vient par les toxicomanes. Le premier toxicomane qui meurt du sida, tout le monde le sait d'une cité à l'autre. Et puis c'est le grand frère de un tel, et puis c'est le cousin de l'autre. Et puis quand il y a eu les premiers morts du sida, dans certaines cités, les usagers de drogue, ils se disaient, lui il est mort du sida, moi j'ai shooté 10 fois derrière ce mec-là, donc je dois l'avoir aussi. Mais il faisait pas forcément de tests pour savoir. Et puis, nous, on a essayé quand même d'accompagner des usagers vers le centre de dépistage et qu'ils soient pris en charge. Aux urgences, ils se faisaient refouler quelquefois quand ils avaient l'étiquette toxicomane. Les services hospitaliers, ils savaient que c'était des patients qui étaient impossibles à tenir, quoi.
Je ne sais pas si ça vient de la mauvaise information, mais c'est vrai que, par exemple, chez nous, quand on veut passer un scanner, ce sont des gens qui passeront en dernier. Les ambulances vont être désinfectées. Ce sera le dernier à être pris, lui aussi. Plein de choses, finalement, qui sont encore au détriment de cette maladie qui est difficile à vivre.
Quel type de symptômes, par exemple, qui faisait que vous pouvez soupçonner que la personne était malade de soit d'hépatite, soit du sida, soit de...
Oh, l'hépatite, c'était facile, c'était les yeux tout jaunes. Le sida, c'était des symptômes divers, mais de toute façon, il y avait aussi des tas de problèmes, des septicémies, il y avait les histoires d'overdose, qui n'étaient pas forcément un surdosage de produits, qui étaient parfois liés aux produits de coupe. Il y avait les problèmes de bagarre. Parce que l'usage d'héroïne, c'était quand même ça. C'était effectivement les maladies, les passages en prison et les morts violentes. Les morts violentes dans les histoires de règlement de compte pour arnaque, les morts violentes par surdosage, et le taux de mortalité a été incroyable. Incroyable.
La majorité des soignants ne voulait pas en entendre parler. La majorité des services hospitaliers se défendaient contre cette population qui avait très mauvaise réputation parce que, d'une part, ils étaient incapables de se soigner, même quand on les hospitalisait. Très rapidement, ils ressortaient parce qu'ils étaient en manque et donc ils abandonnaient leur lit, donc c'était pas la peine de le faire. Ou bien s'ils abandonnaient pas leur lit, c'est qu'ils avaient des copains qui venaient avec de la drogue et qui leur enfilaient, ce qui faisait des problèmes dans les services.
Anne Coppel, sociologue.
Enfin donc, les services hospitaliers ont... Et ils ont été d'ailleurs encouragés à refuser les toxicomanes, parce que la doctrine qui régnait dans les services spécialisés de l'époque, c'était il n'y a pas d'urgence en toxicomanie, donc on incitait les hospitaliers ou les médecins généralistes à renvoyer vers les services spécialisés. Et les services spécialisés, eux, ils faisaient de la désintox. Ils ne s'occupaient pas de la santé des gens.
Et c'était quoi les services spécialisés à l'époque pour
Par exemple, Marmottan. Ça a été un des premiers services de soins aux usagers de drogue qui a été mis en place en 1970, en même temps que la loi, par le docteur Olivenstein, le professeur maintenant Olivenstein. Et ça s'est fait, je dirais, dans une alliance avec les usagers de drogue. Le docteur Olivenstein, il avait découvert l'usage de drogue en allant sur les quais de la Seine où il y avait des hippies. Ça l'a amené à s'intéresser aux drogues. Et donc, il a voulu faire un centre de soins. C'était une conception du soin qui était fondée sur une alliance avec l'usager de drogue. Alors, cette alliance a été nouée au moment de la contre-culture elle a tenu plus difficilement avec les années, hein. Et en particulier à partir du moment où il y a eu des problèmes dans les à Marmottan, comme d'ailleurs dans tous les autres centres qui existaient à l'époque. C'était très mouvementé. Les gens venaient, ils exigeaient d'être pris en charge immédiatement. Alors on leur dit non, il n'y a pas d'urgence en toxicomanie. C'était des petits loubards de banlieue. Bon. Il n'y en avait pas beaucoup qui aimaient ça, quoi, qui avaient l'intention de... Et donc, les institutions sanitaires se protégeaient contre cette population.
C'est un ouragan, une tempête et un jeune qui bougeait maman et de moi. Alors je courais, je suppliais les docteurs comme si... Je vous en supplie, docteur, regardez mon fils et vous demande de... Et vous comprenez, après ça recommence, on n'a pas que ça à faire. Et nous, on n'accepte pas de toxicomanes. Ça fait pourtant, il était très respectueux, Jean-Claude. Payait ça avec son RMI. Voilà. Et c'était moi, avec mon peu d'argent, je suis RMiste maintenant. On avait un garage avant. Et on a déposé le bilan en 90. Et depuis, Jean-Claude l'a mal pris. Et sa vie a dégringolé de plus en plus. Mais quand il a vu que le gouvernement nous a tout pris, Jean-Claude s'est dit « C'est pas juste, il n'y a rien qui est juste. Cette vie est pourrie, maman. Elle est pourrie, je ne vois pas pourquoi vous vous battez tant. » Il a beaucoup souffert, Jean-Claude. La mort d'un jeune de 26 ans, vous savez ce qu'elle fait, une mère? Elle en veut à toute la société, voilà.
Là, on est plutôt axé sur la question des quartiers populaires. L'héroïne, elle se consommait aussi dans des milieux plus bourgeois, aussi dans ces années 80-là, je veux dire. Est-ce qu'il y avait d'autres formes de consommation qui n'étaient pas une consommation prolétaire, ouvrière, populaire?
Oui, bien sûr, il y en avait beaucoup. Mais alors, du coup, les trajectoires n'étaient pas forcément les mêmes. Alors là, je vais prendre une espèce de contre-exemple, parce qu'un autre extrême, mais moi, je me souviens d'entretien avec une personne qui a beaucoup consommé, qui était d'une famille très aisée. Et en fait, elle a eu une histoire très compliquée.
Aude Lalande, ethnologue.
Mais une partie de sa consommation a été payée par... la revente, en fait, qu'elle organisait avec son frère, je crois. Mais cette revente était facilitée par le fait qu'ils utilisaient pour ça un appartement qui était un appartement du patrimoine familial. Donc, elle était peu visible et eux n'ont pas eu le même rapport à l'institution judiciaire et policière que des gens qui organisaient leur système de revente dans des conditions beaucoup plus exposées, beaucoup plus visibles, d'une part. Et puis, d'autre part, au bout du compte, c'est quand même l'apport financier des parents qui a permis de mettre une fin à la période de l'extrême dépendance aux drogues en payant des cures, en soldant les dettes. Enfin, donc voilà, du coup, la résolution dans certains milieux, elle a pu avoir lieu en mobilisant les moyens, le patrimoine familial. Donc peut-être que le rapport au produit était aussi compliqué, aussi difficile à dénouer. Mais bon, voilà, après, l'environnement faisait que les solutions trouvées étaient... permettait de rouvrir un avenir et de rouvrir d'autres possibilités, alors que dans un autre milieu, ça aurait fini en prison et avec quelqu'un qui n'avait plus aucun moyen.
Mais personne n'allait à l'hôpital à ce moment-là. Le sida, c'était quelque chose de tabou.
Donc on n'y allait pas?
Non, on n'y allait pas. C'était une chambre qui était... destinée à leur enfant, qui était allaité et qui l'accompagnait jusqu'à la fin.
Azzedine Zerbi, Orly.
Il n'y avait pas de traitement à l'époque, donc les médecins aussi, ils ne connaissaient absolument rien. Je n'ai pas connu de familles qui ont divulgué à l'extérieur ou qui allaient dans les hôpitaux. Maintenant, comment ils faisaient par rapport aux médicaments, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils y allaient, peut-être qu'un médecin venait, peut-être... Sur la ville, il y avait un médecin. C'est comme les médecins qu'on voit un petit peu aller de maison en maison, etc. Et c'était quelqu'un vraiment de très dévoué qui allait prescrire l'essentiel. Mais il passait, donc les gens lui demandaient tout. C'est formidable. Il y avait un centre médical juste là, pas très loin de mon local. Et donc, il allait voir les familles. Mais par rapport à ce problème-là, je n'ai pas vu de famille aller parler à des médecins, ou alors je n'ai pas connaissance de ça.
Je m'appelle Martine Lalande, je suis à la retraite, j'étais médecin généraliste, c'était mon métier. J'ai passé 35 ans à faire de la médecine générale à Gennevilliers, une ville où il y avait beaucoup d'immigration marocaine, toujours maintenant. C'est une ville très ouvrière, avec cette énorme usine Chausson, qui est une filiale de Renault, qui faisait un kilomètre carré l'usine. Il y avait des magasins à l'intérieur, il y avait une mosquée, il y avait tout. Une ville très active, avec beaucoup d'associations. Beaucoup de HLM, beaucoup, beaucoup. C'était très sympa parce que beaucoup de vies communautaires, de très grandes familles qui se connaissaient et qui échangeaient entre elles. En particulier la Cité du Lutte, où j'ai gardé des contacts. C'était un endroit très, très vivant. Beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. Bon, en même temps, les gens étaient pauvres. C'était à la fois... La vie des gens était dure, mais on sentait qu'on était utile et qu'on était bien intégrés, quoi. Finalement, je me suis assez vite rendu compte que les patients qui consommaient des drogues venaient très peu nous voir, quoi. Parce qu'ils n'étaient pas disponibles pour, parce qu'ils n'avaient pas besoin, ils avaient peut-être moins besoin que les autres de soins pour des choses simples, quoi. Ils se débrouillaient plus tout seuls. Et quand on les voyait qui étaient très mal, on ne savait pas quoi faire. C'est-à-dire, on se disait qu'il fallait qu'ils fassent des sevrages, mais eux, ils ne voulaient pas, on ne savait pas où les envoyer. C'était compliqué. On nous racontait les histoires, quoi, mais c'était très difficile d'entrer en contact avec les gens par le biais des familles, sauf en cas de grosse catastrophe, quoi.
On est en quelle année à ce moment-là ?
On a commencé à s'occuper des usagers de drogue quand on a commencé à s'occuper des gens qui avaient le sida, parce que chez nous, c'était eux qui étaient le plus concernés à Gennevilliers. Je pense que c'est entre 85 et 90, par là. C'est-à-dire qu'on commençait à faire des dépistages. On a commencé à faire des dépistages, on était très embêtés par ces dépistages, parce qu'une fois qu'on avait dépisté, c'était l'arrêt de mort et sans savoir quoi faire. Donc on n'en faisait pas. On avait bien compris que ceux qui avaient utilisé de la drogue, ils étaient plus touchés que les autres, hein, mais on les voyait pas beaucoup. Donc il y a eu toute une période de flottement comme ça. Et puis après, quand on a commencé à voir des gens malades ou des gens séropositifs, enfin on ne disait pas comme ça, mais dépistés, on s'est organisé avec les médecins de l'hôpital Louis-Morier, qui eux, assez vite, ont été débordés, ont eu beaucoup, beaucoup de patients et qui ont bien compris qu'on n'était pas formés, qu'on ne saurait pas tout seul les soigner. Donc ils ont fait l'effort de prendre contact avec nous et on a organisé ce qu'on appelait un réseau ville-hôpital dès 92 pour prendre en charge les malades du sida. C'est-à-dire qu'eux nous adressaient des patients et nous apprenaient à les soigner.
C'était quoi les profils de ces patients ? Jeunes, moins jeunes, femmes, hommes ?
Jeunes, sans doute plus d'hommes. Oui, plus d'hommes que de femmes. Et en général de classe populaire défavorisée, quoi. Ça, c'est clair, ça c'est sûr. Sauf quelques-uns. Quelques-uns qui étaient plus de milieu, de classe moyenne plutôt. Mais non, la majeure partie, c'était vraiment les enfants du quartier, quoi. C'était les enfants du quartier de très grandes familles en général, qui vivaient tous ensemble dans les quartiers, quoi. Les gamins des quartiers, c'était ça. Et il y en a qui sont encore là, hein, qui ont été contaminés en 81 et qui sont encore vivants avec les traitements. Mais à l'époque, ça, les traitements ne marchaient pas. Ils mouraient tous. C'était terrible. Ils mouraient du sida et après, ils mouraient de l'hépatite C. C'était vraiment... On a passé une période, mais terrible, quoi, où on se disait, ils vont tous mourir, quoi. Et du coup, on apprenait à les accompagner jusqu'à la fin, quoi. C'était ça, notre travail. C'est vrai que ça a été une période assez horrible.
C'est-à-dire apprendre à les accompagner jusqu'à la fin, concrètement ?
Ils étaient malades, ils étaient de plus en plus malades, et ils avaient besoin de l'hôpital, et ils n'avaient pas envie d'aller à l'hôpital. Et du coup, c'est pour ça que c'était utile qu'on ait des relations privilégiées avec l'hôpital. Du coup, on essayait de les faire accéder à l'hôpital directement, de leur faire faire les soins en hôpital de jour le plus possible pour qu'ils puissent rester chez eux. Puis on faisait des visites à domicile, quoi, autant qu'il fallait, hein. Des fois, deux fois par semaine. Des fois, il y avait des infirmières qui venaient à domicile faire les perfusions à domicile. Enfin, il y a suivi rapproché de personnes très malades jusqu'à ce qu'ils meurent. Alors, souvent, ils mouraient à l'hôpital à la fin. Mais c'est pas loin, moi je travaillais dans le centre d'IVG de l'hôpital, j'allais les voir aussi, y compris quand ils étaient hospitalisés, quoi. C'était vraiment de l'accompagnement.
Est-ce que vous avez rencontré des cas de usagers de drogue et de transmission au sein du couple ou de... Parce que ce qui est raconté dans l'ouvrage La catastrophe invisible, c'est que dans les personnes hétérosexuelles qui consommaient de l'héroïne ont transmis aussi à leurs femmes, et que ça faisait des familles où il y avait le virus.
Bien sûr, oui. De toute façon, c'était des familles entières, hein, qui étaient contaminées. Enfin, je sais pas, moi, je me souviens d'une patiente, Son ex-ami était contaminé, il vivait avec une nouvelle femme qui était contaminée, ils avaient deux enfants qui étaient contaminés, elle, sa fille était contaminée, et son ami était contaminé. Donc elle et son ami sont morts, la fille a été adoptée, les autres sont morts aussi. Je sais pas ce que sont devenus les enfants de l'autre couple, mais voilà, c'était comme ça, hein. C'était vraiment, tout le monde était contaminé.
Le plateau, c'est les années 80, aussi bien au niveau de la consommation que au niveau de la revente, parce que c'est un produit qui très vite devient très 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 lucratif. Et évidemment, il faut pas oublier le sida et la contamination par échange de seringues ou par relations sexuelles, qui va faire de l'héroïne une sorte de double peine. C'est-à-dire on peut à la fois en mourir d'overdose, mais on peut aussi en mourir par la contamination par le sida.
Michel Kokoreff, sociologue.
Ça a été une hécatombe collective, donc c'est pour ça qu'on reprend le terme de catastrophe, mais une hécatombe collective ou une catastrophe invisible qui a été peu perçue en tant que telle à l'époque, peu objectivée, combien de morts, on ne sait pas, mais qui a laissé des traces presque, on pourrait dire, indélébiles dans les familles qui ont eu des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des pères qui sont devenus toxicomanes et qui en sont morts.
Comment vous expliquez que ce soit si peu connu du grand public en dehors des habitants de ces quartiers, cette histoire-là ?
Peut-être parce que personne s'y est intéressé. Parce qu'elle n'est pas intéressante.
Pourquoi elle n'est pas intéressante ?
C'est pas parce que ça touche la communauté, c'est tout. C'est... Ça touche une communauté. Nous, il n'était pas prévu qu'on reste en France. Hein. Les parents, quand ils sont venus travailler tout le temps, ils parlaient d'Algérie, de Maroc, de Tunisie, avec les voisins et tout. Ils construisaient tous la maison, hein, ce qu'ils appelaient la maison, pour le retour. Le retour, la Alia, hein, comme. Non. C'est pareil, hein, dans l'esprit ici, les Européens, ils partiront, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait des cartes de résidence et tout, on verra.
Et par rapport à cette génération qui a disparu dans les années 80 du fait de l'héroïne, est-ce que vous ressentez personnellement, ou voilà, qu'il y a eu un racisme à l'égard de ce public-là qui était touché par la drogue ?
Bien sûr. Ah oui, je le pense profondément, bien sûr. Bien sûr, bah oui. Mais encore une fois, c'était comme ça, c'est tout. On n'est pas chez nous, on n'est pas... voilà, c'est ça. C'est... Aujourd'hui, à 63 ans, moi qui suis né à Nanterre, et je le pense toujours, on n'est pas chez nous.
Mais du fait de cette situation-là, d'immigrer, on n'a pas pris en compte ces personnes qui étaient en train de mourir, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, bien sûr. Tout à fait. On aurait pu faire... essayer, au moins essayer de faire quelque chose, mais on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Il n'y avait rien dans la cité, il n'y avait personne qui s'intéressait à ces personnes. Quand on les attrapait, les flics dehors, ils les bousillaient, c'est tout. Il y a de la colère. Mais il y aura de la colère jusqu'à la fin. Il y aura de la colère. Oui. Pour beaucoup aussi, ils ont emmené leurs enfants là-bas, ils les ont enterrés dans les pays, hein, Maghreb et tout. Il y a de la colère aussi. Bon, il n'y avait pas déjà les carrés musulmans comme ça se fait aujourd'hui. Mais pour beaucoup, non. Par déception. Comme la famille là, dont je parlais, là, les six gosses, les... Voilà, Ali, c'est pareil, sept dans la famille. Ils les ont tous emmenés là-bas. Pourtant, ils sont nés ici, hein. Ils sont tous emmenés là-bas. Non, il y a de la colère. Ça va... Je dirais, avec l'âge, je me suis assagi, tout. Mais j'étais très, très en colère. Très en colère. Aujourd'hui, on est là, voilà.
La communauté maghrébine, et notamment en l'occurrence les Algériens, était l'immigration la plus nombreuse. Moi, quand je vivais dans mon quartier au Bosquet, on avait beaucoup de familles algériennes et on avait peut-être... deux, trois familles tunisiennes, deux, trois familles marocaines. C'est arrivé après, quoi. Mais au départ, c'était les premiers concernés, c'était les Algériens. Et donc, de fait, comme on était beaucoup plus nombreux, de fait, l'impact a été beaucoup plus fort. Donc on fait un lien assez rapidement. Et c'est vrai, si on se met à calculer chacun de notre côté, chacun dira, chez moi j'en ai perdu du temps. Mais ouais, le lien, juste le fait que c'était aussi après l'indépendance, je sais pas si s'il faut faire un lien ou pas, mais ça peut être peut-être quelque chose sur quoi il faudrait peut-être s'interroger. Ouais. Mon dernier oncle est né en 62, pendant l'indépendance. Mes oncles sont nés, eux, avant l'indépendance.
Pendant la guerre de
Juin. Oui. Mon grand-père, ma grand-mère vivait en France, quoi, je veux dire. Voilà, tous mes oncles sont nés en Algérie. Ils sont arrivés jeunes après, en France. Donc, et puis, effectivement, mon oncle avait 32 ans. Nasser, qui est mort. Et son frère est 35 ans, 3 ans après. Nasser est mort à 32 ans et Nordine à 35 ans. Mes oncles étaient nés entre 55, ouais. Où ils auraient pu peut-être mourir pendant cette guerre d'Algérie, quoi. Ils en sont sortis et vivants pour mourir d'une autre manière, quoi. Ça a été rattrapé par une autre forme de guerre, quoi. Une guerre qui tue tout doucement et qui fait souffrir ceux qui, en plus de ça, ont vécu des moments difficiles, comme ma grand-mère, hein, qui a vécu les moments difficiles en Algérie, mon père, ma mère, quand ils nous racontent un peu ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre d'Algérie. Avoir passé ces moments difficiles pour pouvoir se dire on va pouvoir vivre un peu en paix. Et à la finalité, la paix, elle a été de courte durée.
Merci à Fabrice Olivet, Aude Lalande, Rabat, Mohamed Meshmash, Azeddine Zorbi, Anne Coppel, Ahmed, Missoum, Malika, Nelly Boulanger, Martine Lalande et à Michel Kokoreff. Prise de son, Éric Audra, Raymond Alboui, Florent Bujon et Thomas Robin. Mixage, Cédric Chatelus. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Vanna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Héroïne, Le temps des seringues. Troisième épisode, Sida, Overdose. La catastrophe invisible. Un documentaire de Hajar Ben Boubaker, réalisé par Gilles Blanchard. Retrouvez-nous sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.
Mmh.